Alors bonjour à toutes ceux et celles à qui je n'ai pas dit bonjour ce matin. Donc on va continuer ce matin le livre des Actes. Et le sujet du passage que nous allons lire, ça concerne la réaction des religieux juifs suite au miracle que Pierre et Jean ont fait vis-à-vis de ce boiteux. Donc, pour vous remettre un peu dans le contexte, Pierre et Jean s'en vont au temple, ils arrivent à la porte Belle, et là, il se trouve un boiteux qui est en train de mendier quelques pièces. On peut reprendre ce passage, regardez Actes, chapitre 3, et on va lire le verset 6 et 7. « Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. » Donc voilà le contexte. Et suite à ce miracle, la foule va se rassembler autour de Pierre et de Jean parce que ils connaissaient cet homme, ça faisait des années, des décennies qu'ils le voyaient dans cet état. Et donc à ce moment-là, Pierre va prêcher l'évangile et il va dire « Repentez-vous afin que vos péchés soient effacés, convertissez-vous à Jésus-Christ. » Réaction des chefs religieux quasi immédiate, dès qu'ils voient ça, commence à s'insurger. Et maintenant, si vous voulez prendre chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 22. Acte 4, verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent des sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui leur dit « Chef du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple sache que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux, disant « Mais que ferons-nous de ces hommes ? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc ce qui a provoqué ce grand remue-ménage à Jérusalem, c'est la guérison d'un homme d'une quarantaine d'années, de plus de 40 ans. Et ce dernier verset ici qu'on vient de lire, cet homme, eh bien, était âgé de plus de 40 ans. Ça nous souligne le caractère exceptionnel, miraculeux de cette guérison. C'était pas un jeune enfant qui s'était remis d'un handicap. Non, c'était quelqu'un qui avait grandi avec ce handicap et qui, eh bien, maintenant avait dépassé la quarantaine. Et donc, ça voulait dire qu'il n'y avait aucun espoir. Aucun espoir. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour ce boiteux. Tout ce qu'on pouvait faire, par compassion, c'était le prendre, l'amener à la porte belle, et puis le déposer le matin pour qu'il puisse mendier la journée, et puis le reprendre le soir. Et cette histoire, c'est d'abord l'histoire d'un besoin que personne ne peut combler, personne ne peut satisfaire. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui souffre et qui a perdu tout espoir de délivrance. Cette histoire, c'est l'histoire d'une cause perdue. Cet homme n'avait plus qu'à vivre avec son handicap, l'accepter, l'endurer, le supporter et souffrir en silence. Mais pourtant, on peut dire que tout a changé quand, eh bien, deux apôtres qui croyaient dans le nom de Jésus ont croisé la route de cet homme. Et si la victime, dans ce passage, eh bien, c'est le boiteux, celui qui est le sauveur, c'est Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ. On voit, quand on lit le chapitre 3, que Pierre et Jean même le disent, ils n'avaient pas d'autorité, ils n'avaient pas de puissance en eux-mêmes, rien du tout. Mais par contre, ce qu'ils avaient, c'était une foi vivante au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Regardez acte 3, 16. Pierre dit, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous connaissez et voyez, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous. Qu'est-ce que c'est la foi en son nom ou dans le nom de Jésus? Parfois, il semble que pour certains, le nom de Jésus, c'est presque un nom magique. Mais Pierre explique ce que cela veut dire. Il dit dans le même passage, donc il parle de la foi en son nom, et après il dit c'est la foi en lui. La foi en son nom, c'est simplement la foi en lui. C'est la foi en sa personne. C'est la foi en Dieu lui-même, puisque derrière Jésus-Christ, c'est la personne de Dieu qui est là. Croire en son nom, c'est donc croire en lui, croire en sa personne, c'est compter sur lui, c'est se reposer sur son action. De la même manière qu'on va par exemple invoquer le nom de Jésus-Christ, quand on invoque le nom, en fait on invoque la personne qui est derrière le nom. Si vous avez un médecin qui s'appelle Lucien, c'est pas en répétant le nom Lucien, Lucien, Lucien que vous allez guérir de vos maux. Hein, c'est en téléphonant à Lucien et puis en lui demandant ce qu'il faut faire. De la même manière, c'est pas le nom de Jésus en lui-même qui est magique quand on le prononce, mais c'est la foi dans le nom et la foi dans la personne donc qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est quand on compte sur lui, quand on se confie en lui. Dans le livre des Actes, justement, un petit peu plus loin, on voit des personnes qui ont cru que le nom de Jésus était un nom magique. Et il leur est arrivé des difficultés, hein, si on le verra un petit peu plus tard. Et j'aimerais que nous soyons tous convaincus ce matin que Jésus n'est pas dans une impasse face à notre vie, face aux circonstances de notre vie et face à nos difficultés. Quel espoir pour ce boiteux ? Pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, c'est sans espoir, c'est une cause perdue d'avance. Mais Jésus-Christ est justement la solution devant les impasses. Il est la solution. On a tous des problèmes, parce qu'on est des hommes et qu'on vit sur cette terre. On a tous des difficultés. Il y a celles que nous gérons, voilà, on arrive à les gérer nous-mêmes, celles où on peut dire entre guillemets, où on a un peu de pouvoir sur celles-ci, et puis il y a les autres sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir, aucun pouvoir. comme pour ce boiteux, c'était un obstacle impossible. Impossible. C'était une montagne infranchissable. Donc ça, c'est visible. Vous la voyez, montagne infranchissable. Parfois, c'est invisible aussi. Parfois, ce sont des mots qui sont secrets, des difficultés qui sont personnelles, qui sont intérieures, des luttes. C'est de l'ordre de l'indicible. On n'arrive même pas à en parler, à le dire. Mais c'est peut-être tout aussi handicapant qu'une paralysie des membres pendant 40 ans et que l'on peut voir. Quand on enferme une souris dans une sorte de cage de verre, hein, avec le haut qui est ouvert, avec des parois par exemple transparentes, elle va s'épuiser pour essayer de passer au-dessus, et s'épuiser. Au bout d'un moment, elle capitule, elle arrête, et elle se dit « c'est impossible ». Et c'est acquis, c'est impossible. Et à ce moment-là, quand les scientifiques baissent la hauteur de la paroi, elle n'essaye même plus. Elle n'essaye plus parce que c'est impossible. Elle a intégré ça, c'est impossible, et elle ne bouge plus. C'est plus pris en compte. Et parfois, eh bien nous, on est comme une souris, comme ça. On lutte de toutes nos forces contre des montagnes, contre des impossibilités, contre des obstacles qui sont insurmontables. Et à la fin, une fois qu'on est bien épuisé, on a intégré cette pensée, c'est impossible. Impossible. Mais l'acceptation de cette pensée, elle bloque la foi et elle tue la foi. Elle tue la foi. Dieu, au contraire, dans les Écritures, et vous le savez, il nous dit « Tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, puis qu'il est venu habiter dans notre cœur, s'il est venu habiter dans votre cœur par son esprit, si vous l'avez laissé entrer en vous, on peut dire que ce jour-là, Jésus a abaissé les parois qui nous retiennent prisonniers. Il a abaissé les parois, tout ce qui nous tenait prisonniers. Maintenant, nous sommes libres en Jésus-Christ. Et bien des murailles et des montagnes infranchissables, le sont en réalité. Elles sont franchissables. Elles le sont par la foi. La foi saisie s'empare des choses qui sont invisibles. Vous le savez, dans les évangiles, Jésus dit, Dieu dit, la foi transporte des montagnes. La foi, elle ouvre des mers. Elle fait tomber des murailles. Elle appelle des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Parce que elle voit ce qui n'est pas encore. Il a encore dit, elle est une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Des choses qui semblent impossibles, irréalisables. Et donc, il nous faut croire en son nom, c'est-à-dire croire en lui, croire en sa personne. Pierre va dire, acte 4, 10, regardez. Il dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et j'aimerais que nous encouragions ce matin à avoir foi en son nom, foi en sa personne. L'apôtre Pierre, quand il est arrivé avec Jean, là, à la porte Belle, il était convaincu de l'action de Jésus pour cet homme qui était impotent. Alors il lui a tendu la main et il lui a dit, ce que j'ai, je te le donne. Et c'était la foi, c'était la parole de la foi, une parole de foi, je l'ai, je te le donne. Et que nous puissions nous aussi prononcer des paroles de foi, des paroles de foi. Lorsque Moïse était avec le peuple devant la mer Rouge, souvenez-vous, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Imaginez-vous ça. Aucun moyen d'échapper. Ils sont face à la mer. Derrière, il y a les Égyptiens. Pas de moyen. Infranchissable. Et cette parole de foi, et ils sont passés. On avance. Quelques jours plus tard, ils sont au milieu du désert, ils commencent à murmurer, ils sont pas contents. Ils veulent de la nourriture, plus de nourriture, la nourriture qu'ils souhaitent. Dieu dit à Moïse, ils vont avoir de la viande. Ils étaient au milieu du désert. Rien. À perte de vue. Pas âme qui vive. Des scorpions et des serpents. 2 millions d'hommes. Vous allez manger de la viande. Ce soir, vous allez manger de la viande. Moïse a dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et du pain à satiété. Parole de foi. Je le crois. Moïse, fais confiance. On avance un peu. Les voilà maintenant à Jéricho, pays de Canaan. Ils doivent conquérir des villes païennes, idolâtres, qui faisaient des sacrifices d'enfants, qui faisaient des choses atroces. Et Dieu permettait par Israël que ces villes soient jugées. Ils sont devant cette ville fortifiée, ils arrivent, ça fait 40 ans qu'ils tournent dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des bâtons, des couteaux. On va aller attaquer Jéricho. Et à ce moment-là, Josué va dire, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Parole de foi, les murailles s'écroulent. Quelques décennies plus tard, on avance, c'est au tour de Gédéon. Face à des Madianites, ils sont 300 hommes. Il est dit qu'ils étaient une multitude comme des sauterelles, semblables à des sauterelles. Il va dire, Gédéon va dire, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Parole de foi qui voit l'invisible. Quelques siècles plus tard, on avance, David et Goliath. Il dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains et j'abattrai et je te couperai la tête. Encore une fois, la foi devant l'impossible, c'est déraisonnable, c'est insensé. Mais il le croit. Et il proclame sa victoire d'avance. Il proclame la victoire sur Goliath. Est-ce que nous, on est pour la plupart enfants de Dieu, est-ce que nous croyons dans le nom de Jésus-Christ? Comment tous les croyants, là que nous venons de citer, de voir, ont-ils pu prononcer ces paroles de foi? Si vous regardez bien, ils les ont tous prononcées parce qu'ils entendirent la parole de Dieu, ou parce qu'ils connaissaient ce que Dieu avait dit par les prophètes. Alors, eh bien, ils ont prononcé des paroles de foi, parce qu'ils ont cru dans la parole de Dieu. Dieu a dit, je le crois, je le proclame. Il l'a dit. Alors, de là, on voit l'importance de lire et de se nourrir de la parole de Dieu. C'est vraiment essentiel. Sinon, pas de foi. C'est en lisant que la foi grandit, que la foi s'accroche. Il faut saisir et ancrer notre foi dans les paroles que Dieu dit dans la Bible. Et puis ensuite, il faut prier, il faut les prononcer, il faut les déclarer, il faut les proclamer, parce que ce sont là les vérités qui comptent. Ça, c'est la vérité qui compte. La vérité, c'est pas forcément ce que nous ressentons. C'est pas non plus forcément ce que nous voyons avec nos yeux. La vérité, c'est avant tout et d'abord ce que Dieu dit dans sa parole. Ça, c'est la vérité. Ça, on est sûr. On est sûr. Alors oui, on ressent des choses, on vit des choses, on voit des choses qui peuvent vraiment nous décourager. Mais la vérité de Dieu dépasse les réalités de la vie quotidienne qui sont perceptibles par la vue, par les sens. Les réalités de Dieu, ça dépasse ça. Nos sens nous disent une chose et la foi voit et croit en Dieu qui peut même agir au-delà de ce que nous voyons. On dit que 15 à 20% des accidents d'avion sont dus à la désorientation spatiale. La DS, désorientation spatiale. Les pilotes perdent le sens de la réalité. À un moment, ils sont perdus. Leur sens n'indique plus des choses qui sont la réalité. Par exemple, ils pensent qu'ils sont à l'horizontale, et en réalité, ils sont en train de piquer à 45 degrés. Désorientation spatiale. Ils ne savent plus où ils sont dans l'espace. Quelles sont les mesures dans ces cas-là? Ne se fier qu'à ses instruments de mesure. C'est tout. En fait, c'est faire confiance, et une confiance aveugle, dans les dispositifs électroniques qui nous disent quelle est la réalité. Il faut croire à ce que nous indiquent nos voyants. Et parfois, nos sens nous indiquent quelque chose. Et c'est la panique. C'est l'angoisse. C'est la crainte. On sait plus ce qu'il faut faire. Dans ce cas-là, une seule chose à faire, c'est de se fier dans ce qui est écrit, dans ce qui est clair, dans ce qui est la vérité, dans ce qui est précis, les promesses de la parole de Dieu. Il est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, il faut rester stable, à sa place, confiant et ne s'appuyant que sur les dispositifs, entre guillemets, spirituels que le Seigneur nous a laissés dans les Écritures, les consignes du Seigneur. Alors oui, il y a l'obstacle. Oui, c'est infranchissable. Oui, la montagne est haute. Oui, si on se fie à nos sens, on va droit au crash. C'est sûr. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est que Dieu est avec nous. C'est que Dieu nous accompagne. Et que ses promesses, elles sont véritables. Parfois, vous êtes encore dans un train et vous regardez le train d'à côté et il vous semble que vous êtes en mouvement alors qu'en réalité, vous êtes immobile. Vous l'avez déjà vécu, ça, hein? Nos sens nous trompent. On se dit, mais pourquoi je vais dans ce sens-là même? Je vais dans le mauvais sens. Mais non, c'est une tromperie. Tout ça pour dire que la réalité n'est peut-être pas celle que vous voyez. Le tableau, il est peut-être sombre, il est peut-être sans espérance, mais Dieu est au-dessus des montagnes. Il règne et domine au-dessus de nos obstacles, de nos difficultés. Et il faut qu'on s'accroche à ce qui est fiable, à ce qui est vrai, à ce qui ne varie pas, qui ne trompe pas. Qu'est-ce qui est vrai? Je vais vous donner une liste de versets qui sont des promesses de la parole de Dieu. Elles sont sûres, elles ne changent pas, elles ne fluctuent pas. Elles étaient vraies hier, elles sont aujourd'hui vraies, elles sont vraies encore demain. Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc ce sont ces promesses qui suscitent la foi et ce sont sur ces promesses qu'il faut ancrer notre foi. Il faut les croire et même les proclamer. Première promesse. Alors, peut-être je vais juste vous les lire. Elles sont courtes, que vous ne vous perdiez pas dans la Bible. Philippiens 4:13 dit, je puis tout par Christ, ou selon la version, celui qui me fortifie. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Combien de fois on dit, je peux pas. C'est impossible. Ah non, ça, non, je ne peux pas. Dieu dit non, tu peux. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout. 1 Jean 4:4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc ça fait référence au diable, hein, et donc à sa puissance maléfique. Et parfois on peut se sentir faible par rapport à la puissance du mal. Mais Dieu nous dit, mais vous les avez vaincus et vous avez Christ en vous, vous n'avez rien à craindre, ni les hommes, ni le diable. Romains 6:13. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et une autre chose que l'on peut craindre, c'est le péché. La puissance du péché qui nous domine bien des fois, mais là encore, quelle est la vérité? La vérité, c'est la vérité. Nous avons été crucifié avec Christ. Ainsi, le pouvoir, la puissance du péché a été brisée. Dieu promet qu'en marchant avec lui, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Par la compréhension de l'œuvre de Christ, on avance et plus on la comprend et plus on se l'approprie par la foi, plus on est libéré de la puissance du péché. Le péché n'aura point de pouvoir, il va perdre tout pouvoir sur vous. Et la délivrance, elle est proche, même si vous êtes dans le train et vous vous dites « je fais du surplace ». Non, c'est vos sens qui vous trompent. Dieu fait une œuvre et ça avance, ça avance. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24. « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » Donc ici, ce passage, ça fait référence à la sanctification. Le fait qu'il va nous sanctifier, faire une œuvre dans nos vies. Et parfois, on peut être très découragé. Il semble qu'on n'apprend jamais la leçon. Que c'est encore la même chose. Exactement la même chose. Les mêmes péchés. Mais c'est pas l'homme qui dit cela, c'est Dieu. Il dit, je suis fidèle et c'est moi qui vais le faire. C'est pas toi, c'est moi. C'est mon œuvre, c'est pas la tienne. Et je suis fidèle et je vais le faire. Alors il faut le croire, il faut le prier et il faut le proclamer. Dire, Seigneur, tu as dit, je veux le croire. Seigneur, tu vas le faire et je te remercie parce que tu vas me sanctifier, tu vas me libérer, tu vas me rendre irréprochable, ainsi que tu dis. Jacques, chapitre 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. Et on a tous besoin de la sagesse de Dieu dans toutes nos difficultés. Mais elle est là, elle est disponible, elle est suffisante. Mais il faut lui demander, tous les jours, si nécessaire. Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, promesse, je vous donnerai du repos. » Une belle promesse. Et parfois, on est fatigué, on est chargé, et on est enfant de Dieu et on a oublié la promesse. La promesse, elle est là. Je vous donnerai du repos. Croyons-le, saisissons la promesse. Luc 11, verset 13. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Parfois, on s'imagine que ce sont des choses compliquées pour laisser Dieu entrer en soi. Mais non, ici il nous dit, la promesse est simple. Le Père Céleste donne à celui qui lui dit. Marc 5, verset 36. Ne crains pas, crois seulement. Cette parole, ne crains pas, crois seulement, elle a été dite à un père dans des circonstances tragiques. Humainement, plus d'espoir. On vient lui dire, n'importune plus le maître. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Plus d'espoir. Et au même instant, Jésus se tourne vers cet homme. Il lui dit, ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire, tes oreilles entendent, ta fille est morte. Mais moi je te dis, ne crains pas, crois seulement. Qu'est-ce que vos oreilles entendent ? Qu'est-ce que vos yeux voient ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Jésus vous dit, balaye tout ça. Ne crains pas, crois seulement. Et il faut croire. Simplement croire. Seulement croire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'on relise un des versets d'Actes, Actes 4, verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aujourd'hui, avec les progrès de la science, de la médecine, de la technologie, il semble qu'on a réduit le champ des impossibilités. Hein, il y a plein de choses qu'on arrive à faire aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire autrefois. Et l'homme se sent pousser des ailes au point que Dieu n'existe plus. Depuis deux siècles, il n'existe plus. Avant, il existait. Tous les hommes le reconnaissaient. Mais depuis deux siècles, il n'existe plus. Terminé. Mais il y a des domaines où Dieu n'a pas accès. Il n'a pas accès. Certaines portes lui sont fermées. Par exemple, la mort. La porte est fermée, là. L'homme ne peut rien devant la mort. Il ne la maîtrise pas. Il ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas en revenir. Et on sait que nous allons tous mourir. La parole de Dieu le dit. Et plus les années passent, plus l'échéance est proche. La Bible explique que la raison de la mort, elle est due au péché. C'est le péché qui conduit l'homme vers une sentence, la mort. Il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Si tu pèches, alors tu vas mourir. L'âme qui pèche, c'est celle qui va mourir. Et donc la pratique du péché nous condamne, et cette condamnation, c'est la mort. L'homme doit la payer par la mort. Mais Pierre dit qu'il y a un nom qui a été donné parmi les hommes, un nom qui sauve. Un nom qui sauve. Le nom qui sauve, c'est bien sûr Jésus. En hébreu, c'est Yeshua. Et Yeshua, ça veut dire Yahvé salut, ou Dieu sauve. C'est pas anodin, hein, quand Marie a reçu, eh bien, de l'ange cette parole, hein, et il lui a dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà, toute la signification, toute l'explication. Jésus est mort à notre place sur la croix. Il a subi notre condamnation. Il a subi la mort que nous méritions. C'est pour cette raison que Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre nom. Et il n'y a personne dans le monde et dans l'histoire qui règle le problème du péché. Il n'y a aucun autre nom. Vous pouvez citer des noms d'hommes religieux, de chefs religieux, de gourous, d'hommes spirituels. Vous pouvez citer plein de noms. Personne ne règle la question du péché. Mais le nom de Jésus-Christ règle cette question parce qu'il est mort à notre place sur la croix. Parce qu'il a versé son sang et qu'il a été frappé par Dieu à notre place. En sorte que nous, eh bien, nous n'ayons pas à souffrir la mort dans le sens d'être condamnés pour l'éternité. Mourir à notre place, afin que nous puissions être épargnés. C'est ce que Jésus a fait. En 2008, il y a une jeune femme qui suivait des cours de parachutisme sur la base de Pujeaux, près d'Avignon. Son moniteur, une trentaine d'années, avait de l'expérience, des milliers de sauts. Il avait formé des dizaines de jeunes qui étaient envie d'expériences fortes, hein, de sensations fortes. Hein. Et pourtant, ce jour-là, ça tournait au drame. Il s'est jeté à 4000 mètres, donc avec une élève qui avait déjà fait quelques sauts. Donc, ils avaient chacun une voile et une radio. Et leur saut s'appelle une progression accompagnée en chute. Et dans ce style de chute, si le moniteur voit que vous êtes à l'aise, alors il vous lâche et il reste à 2 mètres et il s'assure que tout va bien. À 1500 mètres, c'est la limite, il faut ouvrir le parachute. À 1500 mètres, la jeune femme n'arrive pas à ouvrir son parachute. Elle n'arrive pas à ouvrir le parachute. Elle tire, elle n'y arrive pas. Lui se précipite. Il réussit à ouvrir son parachute. La dernière limite, c'est 250 mètres. Et juste à la limite, eh bien, le parachute s'est ouvert. Mais lui, il n'a pas eu le temps. Enfin, il a eu le temps, mais trop tard. Et donc, il a perdu la vie. Voilà. Sacrifier sa vie. Et on a une image ici de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait. Il est mort à notre place, afin que nous, nous puissions vivre, nous puissions avoir la vie éternelle, le pardon de nos péchés. Il a pris notre place et il a été frappé à notre place. Dans l'épître aux Romains, il y a ce verset qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ, sera sauvé. » Quiconque invoquera ce nom sera sauvé. Ça signifie que quand on croit, quand on compte sur Jésus-Christ, hein, c'est ça, invoquer son nom, c'est compter sur la personne de Jésus-Christ, on compte sur lui pour notre salut éternel, alors il nous sauve. Il nous donne la vie éternelle. Il nous pardonne nos péchés. On a vu tout à l'heure des hommes qui ont prononcé des paroles de foi. Peut-être que nous aussi, nous pouvons prononcer une parole de foi. Qu'est-ce qu'une parole de foi ? C'est une parole de foi, c'est une parole qui s'approprie ce que Dieu dit. Voilà, on la lit, on l'entend, on se l'approprie et on le croit. Alors, eh bien, ça sort par nos lèvres. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas faire ça, parce que tu l'as dit. Tu l'as dit. Jésus a dit, ne crains pas, crois seulement. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire. On va s'incliner dans la prière.